L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Quand on parle d'écologie et d'inégalité sociale, on a tendance à regarder d'un mauvais œil les entreprises et encore plus la finance. Et aujourd'hui, je reçois Bertrand Badré, qui a été le directeur général de la Banque mondiale de 2013 à 2016, le directeur financier du Crédit Agricole et de la Société Générale, et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Voulons-nous, entre parenthèses, sérieusement, changer le monde ?». Il est le fondateur d'un fonds d'investissement qui s'appelle Blue Lacan Orange. Et avec lui, on va vraiment aborder la compréhension du système. Comment ça marche? Pourquoi on n'arrête pas de parler de croissance? Qu'est-ce que c'est que la croissance? D'où ça vient? C'est quoi l'histoire? Pour essayer de voir aussi comment ce système il peut évoluer, changer éventuellement, puisqu'on en a besoin, et voir comment la finance peut avoir un impact positif dans la transformation responsable dont la société a besoin. C'est une discussion qui est passionnante, que je vous laisse écouter. Allez, Vlan, c'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Bertrand.
Bonjour Grégory.
On va parler aujourd'hui d'un sujet qui peut sembler rébarbatif et surtout, entre guillemets, ennemi, qui est la finance. J'aimerais d'abord comprendre, parce que c'est pas commun de parler de finance et de développement durable. En général, on a tendance à penser que ça s'oppose, puisqu'on a tendance à penser que la finance est très court terme et que les problématiques écologiques et sociales sont plutôt très long terme. On va y revenir. C'est quoi le fondement de notre système? Comment ça fonctionne aujourd'hui?
Alors, le système dans lequel on évolue aujourd'hui, le paradigme, ce qui finalement, pour faire du marxisme un peu simpliste, l'infrastructure qui porte le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, a émergé dans les années 70. Alors, c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on va célébrer, ou en tout cas noter le 13 septembre, le 50e anniversaire d'un article fameux de Milton Friedman, le grand économiste de Chicago, dans le New York Times. C'est le fameux article où il dit « L'objet social de l'entreprise est de faire du profit ». Ça aura 50 ans dans quelques jours. Et c'est important de garder ça à l'esprit parce que ce n'est évidemment pas tout ce qui porte le système, mais c'est ce qui le symbolise au plus haut point. Et qui est parfois d'ailleurs un peu caricaturé. Milton Friedman était un économiste génial, un type très très intéressant, et donc résumer sa vision de la finance à ses seuls quelques mots serait un peu excessif. Il a d'ailleurs dit et écrit que c'était vrai dans la limite de l'acceptation par la société. Mais comme c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, on a laissé tomber la note de bas de page et on s'est contenté de dire, bon voilà, on va maximiser le profit. Ce qui s'est traduit de manière, je dirais, managériale par ce qu'on a appelé la valeur actionnariale, le capitalisme actionnarial, le shareholder value, shareholder capitalism en anglais, ce qui s'est traduit sur le plan politique par la révolution conservatrice en Grande-Bretagne avec l'élection de Margaret Thatcher en 79 et aux États-Unis avec l'élection de Ronald Reagan en 80 et puis évidemment dans tout l'Occident et même en 89, croyait-on, sur l'ensemble de la planète, c'était la fin de l'histoire. L'économie de marché dans sa version années 80 avait triomphé et on allait voir ce qu'on allait voir. Et donc c'est ça le cœur. Alors ça s'est appelé, ça s'est décliné, ça s'est appelé, moi qui ai travaillé un peu à la Banque mondiale, le consensus de Washington qui était d'une certaine manière la potion conservée aux gens qui bénéficiaient du soutien international. Alors là aussi, il ne faut pas la caricaturer, mais c'est vrai que dans les principaux attributs de ce consensus, dans les principaux attributs de ce modèle néolibéral ou de cette révolution conservatrice, enfin, il y a plusieurs noms, il y a effectivement la privatisation, la déréglementation, l'ouverture des frontières, le commerce, enfin, autant de choses qui ne sont pas forcément mauvaises en soi. Et la réalité, c'est que ça a quand même plutôt bien fonctionné au début. Les frontières se sont ouvertes, c'est vrai que qu'avec l'effondrement de l'Union soviétique et, croyait-on, l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, bah, finalement, on avait une planète qui adhérait à peu près au même corpus de règles. Et on a dit, bah, ça y est, c'est gagné. Et on s'est réveillé avec la gueule de bois en 2007-2008 parce que ce système qui avait plutôt bien fonctionné a montré ses limites, s'est fracassé. Et en 2007-2008, finalement, on ne s'est pas posé la question du système. On a fait de la médecine d'urgence, on a fait du bouche à bouche, on a colmaté les brèches, on a, et d'une certaine manière, on a réussi. On n'est pas mort. On ne serait pas là pour en parler si, si on n'avait pas empêché l'effondrement complet après la faillite de Lehman Brothers. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On n'a pas répété les erreurs des années 30, on n'était pas, on avait une troisième guerre mondiale, etc. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on s'est pas, on n'a pas profité de cette crise pour traiter au fond les faiblesses qui étaient révélées par ce drame du subprime. Et donc on se retrouve 10 ans après avec une nouvelle crise qui n'est pas une crise financière, mais qui montre qu'on n'a pas traité ces problèmes. Et donc aujourd'hui, on vit encore très largement sur ce paradigme de l'objet de l'entreprise, c'est de faire du profit au bénéfice de l'actionnaire. Ça a plusieurs conséquences. D'abord, comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un biais court-termiste. Et deuxièmement, c'est un biais très financier. Et donc, ça, c'est pas forcément des choses que les gens comprennent ou ont envie d'entendre, mais ça rythme, pour tous ceux qui travaillent dans ces fonctions, ça rythme leur vie. La manière dont on compte les choses, la manière dont on paye les choses, la manière dont on raconte les choses, bah, elles sont liées à un certain nombre de principes. Et donc, on en est là aujourd'hui. C'est un système qui a une date de naissance, qui a eu des développements, qui aura peut-être une date de mort. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel et qui est gravé dans le marbre pour l'éternité. Mm-hmm. Et donc, on a un rythme. Bah, ce rythme me fait penser que il faut qu'on passe à une autre étape.
C'est ça. C'est ce que décrit un peu le sociologue Michel Maffezoli quand il dit, en fait, on est en train de changer de période complètement, où on est en train de passer à une période qui était très individualiste, à quelque chose qui est beaucoup plus autour des tribus, quelque chose qui était très ancré dans le capitalisme, à quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, ou en tout cas moins dans cette histoire de progrès, de croissance.
Alors, je pense qu'il faut en partie l'espérer. Je ne suis pas sûr que ce n'est pas automatique. Mm-hmm. Ce n'est pas automatique. La force de la formule « l'objet d'entreprise est de faire du profit », elle est extraordinaire. Enfin, faut pas se raconter d'histoire. Ce qu'on appelle l'utilitarisme économique, vous valez ce que vaut votre valeur ajoutée, c'est compliqué à contrer dans la vraie vie. Mm-hmm. Ça rentre bien dans le tableur Excel. Hein. Donc, pour l'en sortir, il va falloir un peu ouvrir le capot, mettre les mains dans le moteur, sortir le tournevis et la clé et se salir les mains.
Hein. Et alors, justement... Aujourd'hui, il y a. En fait, c'était intéressant. On parle beaucoup de croissance. On n'arrête pas de dire il faut de la croissance, il faut de la croissance, en particulier à sortir de cette crise sanitaire. Tout le monde parle de croissance, les politiques parlent de croissance. Et d'un autre côté, on voit bien que ce système, il a des limites. D'abord parce que les ressources minières sont limitées, mais aussi tout simplement parce qu'on pollue beaucoup trop. C'est évident et que on ne sait pas découpler. Enfin, à ce que je sache, la croissance financière et la croissance de la pollution, à moins que vous ayez...
Je suis venu sans ma baguette magique.
Avec la baguette magique. C'est quoi la croissance et comment on fait? Moi, j'ai vu des gens au MEDEF cet été rire quand on aura commencé à leur parler de décroissance et de peut-être du fait que les gens allaient moins travailler. Donc, ils se sont moqués de la personne qui disait ça.
De même que je parlais de l'anniversaire de Milton Friedman, l'an dernier, on fêtait, si je puis dire, on se rappelait le 90e anniversaire du crack de 1929. Et c'est intéressant parce que c'est la dernière très grande crise qu'on a très mal gérée. Ça s'est fini en dépression, guerre mondiale, tragédie. Voilà. Heureusement, on n'a pas revécu ce film. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, après la Grande Dépression de 1929, c'est le moment où on a commencé à changer nos instruments de mesure. Ça fait pas la une des journaux.
C'est là où on a créé le PIB, c'est ça?
On a fait deux choses. Et de manière très intéressante, on a créé la comptabilité nationale. Essentiellement avec un apport français-américain, avec des Anglais aussi, mais et donc c'est là que Keynes parlait de demande agrégée, et on a commencé à dire que ces demandes agrégées, ça ressemble au PNB, comment ça marche, et on a commencé à calculer et à mesurer ce qui est devenu la croissance. Donc ça date vraiment le thermomètre public, il date de l'après 1929. La crise a poussé à dire comment on mesure. Et c'était finalement assez aligné avec les approches keynésiennes. Mmh. Et on a vécu avec ce thermomètre. Ce qui est très intéressant, c'est que Nicolas Sarkozy, en 2008, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avait mandaté Joe Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi pour réfléchir à une nouvelle mesure. Ils ont fait un rapport, puis qui n'a pas été suivi des faits. Mais il avait eu cette intuition, il faut lui reconnaître ça, il avait eu cette intuition qu'effectivement, il y avait peut-être un problème de mesure. C'est pas forcément le mot croissance, c'est pas forcément un gros mot, et le mot décroissance, un autre gros mot. C'est peut-être qu'on mesure pas la bonne chose et qu'on ne prend pas de la bonne manière. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi après la crise de 29 qu'on a changé la comptabilité privée. Donc on a, en particulier parce que la Roosevelt a créé la SEC, donc l'organe de régulation des marchés, et la SEC a dit il faudrait que les gens comptent de la même manière. Mmh. Et donc a forcé à ce qu'on a appelé, pardonnez-moi d'être jargonnant, les GAAP, les Globally Accepted Accounting Principles, pour dire on va tous compter plus ou moins de la même manière. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la faillite de 29 a abouti à déterminer le thermomètre public et le thermomètre privé, qui sont comment mesure-t-on le profit d'entreprise et comment mesure-t-on la croissance du pays. Et moi, je crois que quand on prend la période de la crise financière 2008-2010 jusqu'à ce qu'on vit aujourd'hui et probablement encore quelques années, c'est peut-être le moment de se poser la double question de est-ce qu'il n'est pas temps de changer de thermomètre public et de changer de thermomètre privé. Donc, ce n'est pas de rentrer dans un débat sur la croissance, pas la croissance, etc. C'est de savoir, mais au fond, que veut-on mesurer? Comment veut-on le mesurer? Et ça, c'est une question qui est extrêmement importante. Alors moi, il y a un mot que je préfère de beaucoup au mot croissance, c'est le mot développement. La croissance, si on veut être un peu provocateur, c'est le cancer. D'une certaine manière, ça prolifère, ça métastase, et puis ça croît en toutes les directions. Et c'est l'exemple bien connu. Si je prends ma voiture et que je fais 100 fois le tour du périphérique, c'est très très bon pour le PNB. Mais si j'ai un accident de voiture, c'est encore meilleur. C'est absurde, on voit bien, enfin, c'est un exemple provocateur.
Non, mais...
Donc la croissance en soi, c'est une force qui va, qui ne sait pas où elle va et dont on ne sait pas ce qu'elle produit. En revanche, le mot développement, qui est un mot magnifique, alors là j'emprunte ça, c'est une phrase que j'avais trouvée il y a très 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 longtemps, je la cite de mémoire, elle n'est pas complètement exacte, c'était dans une conclusion de l'Assemblée des Églises protestantes dans les années 80, et qui disait le développement, ça n'est pas la croissance, ça n'est pas le cancer, c'est la stratégie de l'embryon. Et l'embryon, c'est bien, je mets ce qu'il faut, là où il faut, au moment où il faut, dans l'ordre qu'il faut. Et donc, il y a un sens. On crée quelque chose. Et donc, moi, l'idée qu'on réfléchisse à comment mesure-t-on notre développement, et au lieu d'opposer stupidement une croissance ou une décroissance du PNB, mais en gros, qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut le faire? Et finalement, répond à cette question autour de laquelle on tourne, qui est, mais finalement, dans quel monde veut-on vivre? Avec quelle économie? Et si on se met d'accord sur ces termes-là, avec quelles finances? Alors, la réalité, c'est qu'on s'est mis d'accord. On a un peu oublié. Mais en 2015, il n'y a pas très longtemps, il y a 5 ans, alors les Français s'en souviennent parce que c'est les accords de Paris sur le climat, mais il y a eu avant les accords de New York sur le développement durable, il y avait même eu avant en Éthiopie et à Addis Abeba les accords sur le financement du développement. Et là, tout le monde a signé. Alors les Américains sont sortis du climat, mais de manière étonnante, le climat reste dans les objectifs du développement durable dont les Américains sont toujours partis. Donc en réalité, on a toujours cette feuille de route. Cette feuille de route, ce vivre ensemble, on l'a définie. Alors évidemment, ça paraît très loin, les assemblées à New York, Paris, les chefs d'État, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont
signé. On ne voit pas concrètement, en fait.
On ne voit pas concrètement. Mais la réalité, c'est qu'on ne va pas réinventer cette feuille de route. Elle est pas mal, elle existe, et de toute façon, on est incapable aujourd'hui, dans l'état de désunion de la planète, d'en refaire une autre. Donc travaillons sur cette feuille de route, et soyons sérieux. Si on est d'accord, et on a signé, François Hollande a signé, d'autres ont signé, comment mettons ça en application, et est-ce que ça peut marcher avec le système néolibéral ou conservateur dont on parlait tout à l'heure. Mon intuition, c'est que non, et que donc, encore une fois, il faut transformer les prémices et travailler sur ces prémices.
Parce que aujourd'hui, on parle beaucoup, et donc j'avais rencontré François Hollande pour mon livre, entre autres, d'intégrer le gaz à effet de serre dans le bilan des entreprises. Ça peut être une des manières de changer le calcul, parce que du coup, on parle beaucoup de croissance ou de développement, mais le développement, comme n'importe quel être vivant, que ce soit un arbre ou un être humain, au bout d'un moment, il arrête de croître. Et là, c'est évidemment pas le cas, c'est-à-dire qu'on est dans une croissance un peu comme si c'était infini, que ça n'a aucun sens. Comment on s'y prend? Alors, vous pouvez peut-être parler du lab, expliquer ce que vous faites au sein de ce groupe de réflexion, parce que c'est aussi intéressant peut-être comment vous y êtes arrivé et qu'est-ce que vous y faites et comment on fait pour changer les choses.
Alors,
le
lab, c'est le One Planet Lab. L'extrême origine, c'est quand Donald Trump a signalé son intention de sortir des accords de Paris, le président français Emmanuel Macron à l'époque a fait une déclaration en disant « Make our planet great again » et a dit derrière « Je vais convoquer un One Planet Summit ». L'idée qu'il prenait le slogan One Planet, derrière lequel il mettait la préoccupation du climat, de la biodiversité, des océans et de la finance. Il avait cette vision holistique des choses. À partir de là, il y a eu un événement à Paris en décembre 2017. Et derrière ça, on s'est dit, ben, au-delà de faire des sommets, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un groupe d'acteurs ? Donc, il y a une partie d'académiques et une partie de praticiens. Je me classe plutôt dans les praticiens, qui s'appelle le One Planet Lab et qui travaille sur un certain nombre d'options, de choses qu'on peut faire, avec notamment l'intuition qu'aujourd'hui, il n'y a pas de maître du monde. Il n'y a personne qui va... Ce qui n'était pas le cas. D'une certaine manière, l'élection de Reagan et Thatcher, c'était les maîtres du monde de l'époque, idéologiquement et, je dirais même, économiquement. On peut argumenter que François Mitterrand a essayé de résister en France quelques mois, mais après, il s'est rallié et on a suivi. Aujourd'hui, il n'y a pas de leadership intellectuel sur la planète. Il n'y a pas de maître du monde qui va décider pour nous qu'on va dans cette direction. C'est compliqué. Bon, à la limite, on n'est pas d'accord, mais on préfère qu'on nous impose un truc en disant « j'aime pas, mais je vais le faire quand même ». Malheureusement, ça n'existe pas. Donc, on est à ce moment un peu particulier où, bah, en l'absence de maître du monde, et même pire que ça, il y a même plusieurs candidats à la maîtrise du monde, on ne sait pas très bien, comment est-ce qu'on peut créer une dynamique positive ? Et c'est une des intuitions très fortes du One Planet Lab, qui était celle de Paul Polman, l'ancien patron d'Unilever, de Brune Poirson, qui avait piloté cet effort quand elle était au gouvernement, de dire, ben voilà, on va créer, c'est la stratégie du tipping point, ce que les Anglo-Saxons appellent le tipping point, on va, dans un secteur donné, essayer de réunir un certain nombre de gens qui représentent une masse critique d'acteurs d'un secteur et qui vont dire, par exemple, on prend le transport maritime, on va réunir les premiers qui vont dire bah, on prend l'engagement de ne pas faire passer nos bateaux par la route nord au-dessus de la Russie, parce que ça détruit des écosystèmes, etc. Et on fait le pari que s'il y a 20, 30 ou 40% des gens qui ne le font pas, bah, la pression sur les autres est telle qu'ils vont se rallier. Et que si on arrive à faire ça plusieurs fois, bah, les pouvoirs publics qui étaient plutôt à la remorque vont dire bah, oui, c'est très bien, et donc on valide l'interdiction de passer par le nord. Donc d'avoir de réfléchir à, en l'absence de maître du monde, comment faire. Donc c'est ça l'intuition du lab, et c'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'on n'est pas complètement démuni. Il ne faut pas dire bah, y a pas de maître du monde, ils n'ont qu'à faire ça et moi je ne peux rien faire. Si, on peut toujours faire quelque chose.
C'est surtout qu'il y a une, enfin, et moi y compris d'ailleurs, une défiance très forte envers la finance, le monde de la finance et l'entreprise, parce qu'il y a vraiment, et on en parlait, je pense que c'est peut-être le moment de rentrer dans le détail, mais de cette dualité extrêmement forte entre le court-termisme de la finance et les enjeux long terme que sont le développement durable, enfin pas le développement durable d'ailleurs, l'écologie pardon, et puis le social, clairement.
On a deux problèmes pratiques à traiter et il nous manque un ingrédient. Les deux problèmes pratiques, c'est des problèmes très classiques en économie, c'est ce qu'on appelle the tragedy of the commons, donc le problème des biens publics, qui s'en occupe, et la tragédie des horizons. Alors la tragédie des biens publics, c'est de dire bah, en fait qui est responsable du climat. On a tous besoin que le climat soit sous contrôle, et en même temps, on est quand même content que l'effort soit fait par le voisin plutôt que par nous. C'est une banalité totale, mais c'est bien le cœur de la difficulté qu'on a face à ces questions-là. Mais c'est vrai pour la biodiversité, et c'est vrai pour toute une série de problématiques qui sont des problématiques par construction mondiale, et qui ont besoin de consensus mondial, qui est justement une des denrées rares aujourd'hui. La tragédie des horizons, elle avait été mise en avant par Mark Carney, qui était le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui est maintenant l'envoyé spécial des Nations Unies sur le climat, et qui disait ben finalement, dans le monde d'aujourd'hui, alors je complète un peu ce qu'il disait, mais peu importe, finalement, le trader, lui, il se préoccupe de la prochaine milliseconde. Le directeur financier, j'étais directeur financier, je suis très focalisé sur mon arrêté trimestriel ou semestriel. Bon, ok, je suis pas idiot, je pense un peu plus loin, mais fondamentalement, je pense à mon arrêté trimestriel, avec en plus un biais qui est terrifiant, c'est que les normes comptables dans lesquelles on vit aujourd'hui, elles sont basées sur le principe de ce qu'on appelle le mark-to-market, c'est-à-dire la valeur de marché. C'est le paradigme dans lequel on s'est précipité dans les années 70, mentalement, quand Nixon a choisi de suspendre la convertibilité en or du dollar, on avait un système organisé où il y avait l'or, le dollar, les monnaies qui s'organisaient autour, et tout ça était organisé, organique. Et brusquement, on a dit, maintenant c'est fini. Et donc maintenant, si je vous demande combien vaut un dollar, vous allez me dire ça vaut X euros. Et je dis, OK, un euro, ça vaut combien ? Ça vaut Y dollars. Donc on est rentré dans un univers où mentalement, on est un univers de marché. Et ça s'est effectivement diffusé à la comptabilité, où aujourd'hui, en comptabilité, vous arrêtez la valeur de votre bilan tous les trimestres en disant, si je liquide mon entreprise, qu'est-ce que le marché me paye ? Alors, c'est très cohérent avec tout ce qu'on a dit jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, comment voulez-vous, quand vous liquidez mentalement votre entreprise tous les trimestres, vous projeter à 20 ans ? Je dis, c'est pas de la psychologie, c'est aussi simple que ça. Donc le directeur financier va se projeter à 3 mois ou 6 mois. Le patron de l'entreprise, il a en gros le plan stratégique, 2, 3, 4 ans. Le ministre des Finances, le gouverneur de banque centrale ou le chef d'État, il va voir 4, 5 ans. Mais dans le monde d'aujourd'hui, personne n'est en charge au-delà de ces quelques années. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour le climat? Tout le monde a intérêt à dire, ça durera peut-être un peu plus que ce qu'on me dit, et en tout cas, moi, aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, on a ces deux sujets, tragédie des horizons, tragédie des biens publics, et en face, on a un problème de confiance, parce que s'il n'y a pas de confiance, personne ne va faire le premier pas. Et c'est là que la question que vous posez est la bonne. L'ingrédient qui se dissipe à vue d'œil depuis un certain nombre d'années, c'est la confiance. Confiance des individus les uns envers les autres, comme on dit toujours, du peuple envers les élites, des gens vis-à-vis des institutions, de l'économie réelle vis-à-vis de la finance. Enfin, vous avez des problèmes de confiance partout, de suspicion généralisée, etc., qui rendent toute coopération infiniment désagréable, infiniment longue, pénible et beaucoup moins efficace qu'elle ne serait naturellement. Et si on veut être provocateur, si tous les matins, quand vous achetez votre baguette, vous mettez en doute le fait que le boulanger fait un bon pain, là, ça rend la vie compliquée. Alors qu'en fait, vous dites, bah, c'est bien, on fait un raccourci, je prends ta baguette, je sais que tu le fais bien, qu'il y a quelqu'un qui vérifie, et donc... Et ça, on a perdu ça dans beaucoup de sphères de l'économie. Et on l'a perdu, et moi j'aime bien citer cet exemple en France, en 2008, peu avant la faillite de Lehman Brothers, donc à l'été 2008, le débat, vous m'en souvenez peut-être pas, mais le débat économique de l'été 2008, c'était le RSA, la création du RSA par Martin Hirsch. Et un des débats, c'était de savoir, est-ce qu'on fait un RSA national, est-ce qu'on fait un pilote dans une région, est-ce qu'on fait telle ou telle population, enfin, donc en gros, c'était on teste et on va tester, on fait un prototype et comment on fait, est-ce que ça va coûter 500 millions d'euros, 600 millions d'euros, 800 millions d'euros, bon, on discute tout l'été de ça. Arrive la faillite de Lehman Brothers, 15 septembre 2008, le plan français, qui était un plan pour le financement de l'économie, mais qui était quand même un plan de soutien au secteur financier, Nicolas Sarkozy va, le fameux discours de Toulon, puis le plan annoncé début octobre, il dit on va mobiliser plus de 400 milliards d'euros. On retrouve les mêmes chiffres aujourd'hui, d'ailleurs probablement avec un zéro de plus. On est passé dans des ordres de grandeur qui sont plus les mêmes. Et donc on va mobiliser 400 milliards d'euros pour notre économie et notre finance. Et moi, à l'époque, j'étais au Crédit Agricole, j'allais très souvent rencontrer les clients, les sociétés, etc. Et les gens me disaient, attendez, on a passé 2 mois et on n'a pas trouvé 800 millions pour les plus pauvres. Et là, en 15 jours, on trouve 400 milliards pour les banques. En gros, pour les riches et les puissants.
C'est ça.
Et alors, moi, là-dedans. Donc, c'est moi, contribuable, qui vais soutenir. Et on a, un, je pense qu'il fallait le faire. Deux, on n'a pas très bien expliqué. Et quand je raconte cette histoire, et je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait aux États-Unis, je l'ai fait au Brésil, tous les pays ont vécu une histoire un peu similaire. Il fallait sauver le système. Le problème, c'est que le système, il y a plein de gens qui n'ont pas compris ce que c'était et pourquoi. Et donc là, on a une espèce de déchirure. Non pas que la finance était extrêmement populaire à l'époque, mais alors là, vous avez... Et donc, on est toujours dans ce contexte aujourd'hui. Et c'est pour ça que la finance a une responsabilité particulière à se réinventer. Bon, pour l'instant, et c'est pour ça que le livre que j'ai écrit s'appelle « Voulons-nous, entre parenthèses, sérieusement ?» parce qu'on dit qu'on fait des choses. Et je ne dis pas qu'on n'en fait pas. Je pense qu'on ne va pas assez loin et que ce n'est pas assez fort comme mouvement. Alors, on va parler d'investissement socialement responsable. On va parler de ESG, donc de focalisation sur l'environnement, les problèmes sociaux, la gouvernance. On va parler d'impact. Tout ça est parfaitement exact. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on va assez loin? Et est-ce qu'il n'est pas temps de sortir du paradigme friedmanien? Est-ce qu'il n'est pas temps, finalement, de positionner la finance non pas sur deux pieds, comme on a aujourd'hui, risque-rendement, ça c'est vraiment l'alpha et l'oméga de l'industrie financière au XXe siècle, c'est déjà un progrès. Au XIXe siècle, il n'y avait que le rendement. Vous aviez une mine, vous creusiez, et puis quand la mine était épuisée, vous alliez creuser plus loin, et puis voilà. Et comme je dis souvent, quand vous étiez aux États-Unis, vous alliez vers la Californie, vous étiez en Russie, vous alliez vers la Sibérie, vous étiez européen, vous colonisiez le monde. Mais il n'y a pas de limite. Au XXe siècle, on a compris que c'était plus compliqué que ça, on a créé le couple risque-rendement. Je pense qu'au XXIe siècle, il faut qu'on trouve au cœur même des mécanismes financiers, de l'investissement, de la valorisation, risque, rendement, impact, ou risque, rendement, durabilité, qu'on ajoute cette dimension. On est dans un univers fini, point numéro un, et deuxièmement, on est dans un univers qui doit être concret. On n'est pas, encore une fois, je disais pour Excel tout à l'heure, le capitaliste, ce n'est pas un papier sur tableur Excel. C'est enraciné dans cette planète et pour nous, les habitants de cette planète. Et c'est là qu'il faut faire cette bascule de Friedman. Là, j'emprunte la formule à un autre économiste que j'estime beaucoup aujourd'hui, qui s'appelle Colin Meyer, qui était l'ancien doyen de Business School à Oxford, qui dit, au fond, il faut qu'on passe de l'objet de l'entreprise, c'est de faire du profit, à l'objet de l'entreprise, c'est de trouver des solutions profitables au problème de notre planète et de ses habitants. Donc, c'est pas dire que le profit, c'est mal. On va pas se raconter d'histoire, là, on bascule dans autre chose. Mais c'est un profit qui est un moyen en vue d'une fin et pas une fin en soi. Et à partir de ce moment, il retrouve sa grandeur, sa noblesse, et il retrouve une perspective de long terme. Parce que s'il est durable, il s'inscrit dans la durée. Si vous avez juste le profit, en fait, c'est « take the money and run ». Je fais le plus de monnaie, le plus d'argent le plus vite possible, et je réponds au cahier des charges. Si on s'inscrit dans une logique de long terme, ça change l'équation et ça change toute la mécanique.
Mais surtout, la remarque qu'on fait régulièrement, c'est de dire autant les patrons de PME, c'est des entrepreneurs, autant les patrons des grosses structures, c'est des gestionnaires. Donc en fait, ils sont arrivés à un certain âge. Eux, ils essayent de maintenir la boîte. Enfin, c'est l'image qu'on a de l'extérieur, en tout cas. Et vous croisez pas mal de grands patrons. Donc, ils essayent de maintenir la boîte comme ils peuvent. Et surtout, ils prennent pas trop de risques jusqu'à ce qu'ils soient à la retraite et qu'ils touchent leurs dividendes, etc. Et donc, du coup, on voit que ce modèle, finalement, nous, en tant que consommateurs, on voit que ça bouge pas assez vite. Ou en tout cas, on a l'impression que ça bouge pas du tout, d'ailleurs. Comment on fait pour basculer de l'autre côté?
Il n'a pas de raison de bouger. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de raison de bouger. Aujourd'hui, on vit dans un capitalisme actionnarial. Et donc, dans le capitalisme actionnarial, le dirigeant d'une grande entreprise cotée, il y a des grandes entreprises familiales, donc là, c'est un peu différent, mais d'une grande entreprise cotée, c'est ce que les économistes appellent la théorie de l'agence. On confie à un dirigeant le soin de gérer une entreprise. Et donc, on met un certain nombre de garde-fous et on lui dit, c'est comme quand vous avez un babysitter, vous lui dites, attendez, vous nourrissez le bébé à telle heure, telle heure, telle heure, vous allez le coucher, etc. Et bien, on lui dit, la feuille de route, c'est « The social purpose of business is to make profit ». Donc, ta feuille de route, c'est de faire du profit pour moi, actionnaire. Mais le gars, sauf s'il a des convictions, qu'il convainc ses actionnaires, etc., il n'a pas de raison. Alors après, ça c'est probablement le coup de poing que j'ai pris dans le ventre, je le raconte dans le livre, le plus chaud de ma vie. On avait organisé avec l'Institut Montaigne en 2008 une conférence, c'était avant même la faillite de Lehman Brothers, au début de la crise du subprime, où on avait invité, je me souviens, Jean Tirole, devenu depuis prix Nobel, et Paul Volcker. Alors Paul Volcker, les gens ne s'en souviennent pas forcément, c'était le gouverneur de la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, qui avait terrassé l'inflation. Les années 70, le mal économique, c'était l'inflation. Et Paul Volcker avait cassé l'inflation, qui avait d'ailleurs après été suivie par la France et d'autres pays. Et donc l'inflation, on n'en parle plus aujourd'hui. On n'arrive même plus à la retrouver. Enfin, on pousse. Alors, donc Paul Volcker, c'est quand même une grande figure, grand serviteur de l'État américain, qui avait été repris et qui a repris du service sous Obama à 90 ans, qui est décédé il y a un an maintenant. Et on le questionne dans cette discussion avec l'Institut Montaigne. Quelqu'un lui dit, mais monsieur Volcker, je vous trouve très dur. Finalement, on est dans un jeu et on obéit aux règles du jeu. Donc, pourquoi vous nous tapez dessus? Et Paul Volcker avait dit, en disant, mais je vais vous répondre ce que j'ai répondu à mon petit-fils qui travaille à Wall Street. Je n'accepte pas plus en 2008 qu'en 1945 l'excuse de Nuremberg. Vous, les financiers, vous êtes particulièrement intelligents, particulièrement diplômés, particulièrement actifs. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas savoir ce que vous faites. Et donc, c'est votre job de dire, attendez, ça, je ne veux pas, etc. Donc, on est dans cette tension. On a un jeu, on a des règles, etc. On les suit. La question, c'est est-ce qu'on peut dire ça ne va pas? Et je pense qu'on a ce moment de tension. Un certain nombre de dirigeants ont dit, dans le cadre des règles actuelles, je vais quand même pousser les limites. Donc, il y a des dirigeants qui ont commencé à pousser. Et on a cette phase un peu d'entre-deux où on a du mal à abandonner le système d'avant et on n'a pas trouvé le système d'après.
Mais surtout, j'imagine que pour les patrons, mais aussi au niveau des pays, il y a vraiment cette idée de pourquoi ça devrait commencer par moi? Si je le fais, ça va forcément dire que je ne vais plus être rentable. Donc du coup, je vais me faire manger par la concurrence qui, elle, va toujours pratiquer ces méthodes, entre guillemets, anciennes. Donc comment on fait passer d'un paradigme à un autre, en fait?
Je pense qu'on est à un moment où les choses peuvent se passer un peu différemment. C'est vrai que dans la mentalité collective et même individuelle, je suis passé par là aussi, on se dit, si j'essaie de faire les choses mieux, ça va me coûter plus cher, et donc ça, j'y mets un peu de mon argent. Combien est-ce que je suis prêt à contribuer pour faire mieux? Donc, c'est un centre de coûts, etc. En général, on essaie d'optimiser le petit bidule qu'on fait. Et on se dit, vous voyez, j'ai fait ça, on se donne bonne conscience, on donne de l'argent à la quête. On dit, je me sens mieux après. Et à la limite, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est un début. C'est un début. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ça suffit pas. Enfin, on peut pas juste se contenter de faire un petit peu. On peut pas se contenter de dire, bah, c'est tout le débat sur la responsabilité sociale des entreprises versus la raison d'être. Mmh. Et la raison d'être, est-ce que c'est suffisant? Donc, comment est-ce qu'on va beaucoup plus loin? Comment est-ce qu'on entraîne l'entreprise? Et surtout, comment ça devient non plus un geste marginal pour faire mieux? Mais comment est-ce qu'on finalement on va répondre aux attentes? Et c'est pour moi, c'est un des points les plus importants de mon livre. Je travaille par exemple avec une entreprise alors, qui n'est pas très connue dans son acronyme, qui s'appelle JAB. JAB, c'est une holding qui contrôle un certain nombre d'entreprises de grande consommation, qui notamment la plupart des marques de café qui ne sont pas Nestlé, c'est JAB, prête à manger pour ceux qui travaillent à la Défense, par exemple, savent ce que c'est, etc. Et qui fait donc notamment du café, de la restauration et d'autres choses. Et finalement, ils ont basculé, comme un certain nombre, d'un raisonnement où bah, j'essaie d'arbitrer en faisant un peu mieux, etc., à un raisonnement où, mais si je fais du café ou si je fais de la restauration aujourd'hui et que je ne traite pas de manière visible, crédible et transparente la question de mon approvisionnement équitable, du gaspillage alimentaire et de mes emballages, ça devient un sujet stratégique. Et c'est là qu'il faut prendre l'économie de marché d'une certaine manière à son propre piège. Dans l'économie de marché, il y a marché. Et le marché, c'est les consommateurs, les investisseurs, les collaborateurs. Et bien, si les collaborateurs, les investisseurs, ça c'est vous et moi, on est tous consommateurs, investisseurs, collaborateurs. Si on dit de manière suffisamment haut et claire, je ne veux pas investir dans cette entreprise, je ne veux pas travailler avec cette entreprise, je ne veux pas acheter les produits de cette entreprise parce qu'elle se comporte mal, ben, le marché fonctionne. Le marché, ben, il dit, ah oui, très bien, vous ne voulez pas, ben, on va